En 1979, en Angleterre, sortait l'album The Wall de Pink Floyd, qui est en réalité le dernier album du groupe. La dernière fois que nous avions parlé de Pink Floyd, nous avions laissé Pink Floyd avec Meadow en 1971 en étudiant Echoes, morceau iconique. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à un morceau plus tardif de la carrière de Pink Floyd, qui appartient en réalité à la dernière partie du dernier album du groupe, The Wall. La chanson dont nous allons parler aujourd'hui est tout à fait particulière dans l'histoire du groupe, puisqu'elle est souvent considérée, notamment par David Gilmour lui-même, comme la dernière grande collaboration des différents membres du groupe, entre Roger Waters et David Gilmour, par exemple. Il se trouve que cet album, The Wall, a été particulièrement éprouvant pour le groupe, et que sa création a amené à beaucoup de conflits internes qui ont finalement mené à la séparation du groupe. Roger Waters cherchant notamment à contrôler tout le processus créatif du groupe. Mais cependant, cet album est assez particulier car il raconte une histoire. L'histoire de Pink, une sorte de rockstar qui, au fur et à mesure de l'album, se construit un mur pour se séparer du monde, le fameux wall du nom, et finalement décide de le briser. La chanson dont nous allons parler aujourd'hui tient une place tout à fait particulière du coup dans cette progression narrative, puisqu'il s'agit de Comfortably Numb, comme je l'ai dit plus tôt. Comfortably Numb, qui veut dire confortablement stupide, est une chanson très simple dans sa structure, et qui est beaucoup plus pop et simple que les premières expérimentations du groupe avec Echoes ou encore Shiny New Crazy Diamond, qui sont des morceaux assez complexes. Ici, nous allons parler d'un morceau d'une simplicité forte et élégante pour autant, car derrière cette simplicité se cache une grande richesse, et surtout, ce morceau est souvent considéré comme le plus grand solo de David Gilmour. Je vous propose tout de suite de commencer à l'écouter. Déjà, dès le départ, on a quelque chose de très marqué, de très atmosphérique. Si on écoute la suite d'accords qu'on a, on est en si mineur. Et voilà ce que vont faire les accords. Vous avez entendu, ce qu'on a entendu, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois, dont j'ai parlé à l'un de ses émissions. Pink Floyd aime beaucoup faire des basses qui sont cohérentes et logiques. Ici, la basse fait simplement La, Sol, Fa, Mi, Si. On est en Si mineur, du coup on part de l'accord de Si mineur. Puis on descend sur l'accord de La majeur qui est juste en dessous dans la tonalité. Sur l'accord de Sol majeur. Mais là, au lieu de simplement faire l'accord de Sol majeur pendant une mesure comme pour les précédents accords, on va le faire sur une demi-mesure, donc la moitié du temps. Et après, on va avoir cette basse qui descend, ce qui se traduit par pour aller sur un accord de Mi mineur et revenir ensuite sur l'accord de Si majeur directement. C'est une progression d'accord qui est extrêmement simple, tout simplement parce que d'ailleurs ce petit mi mineur à la fin paraît rajouter un peu de complexité à l'ensemble, mais en réalité pas vraiment, puisque cet accord de sol majeur et l'accord de mi mineur ont plusieurs notes en commun, ont deux notes en commun précisément, c'est-à-dire que dans l'accord de sol majeur vous allez retrouver un Sol, un Ré,
un autre sol, un accord, et on retrouve vraiment ces notes-là, sol, si, ré. Dans l'accord de mi mineur, on retrouve mi, sol, si. Donc on a juste une note de différence entre les deux accords. Ce qui fait qu'en fait, ce mi mineur est une sorte de prolongation du sol majeur, d'un point de vue théorique. Mais on a donc cette suite d'accords qui est très répétitive, qui revient tout le temps sur ce si mineur en boucle, et ça donne un côté un peu hypnotisant, ce qui est d'ailleurs accentué par la rythmique assez lente, en réalité, au début du morceau, et puis ces grands effets de modulation, comme si on montait très doucement vers la note à laquelle on est censé arriver, et bien sûr, l'effet d'écho sur la voix de Roger Waters, dont la voix assez métallique transparaît bien dans ce mix-là et donne vraiment un caractère très particulier, très hypnotisant, atmosphérique, avec de l'écho comme si on était perdu dans un grand espace. Ce qui correspond bien à ce dont parle la chanson, puisque au moment de la chanson Comfortably Numb, ce qui se passe, c'est que le personnage de Pink fait une overdose et est rattrapé par son médecin, et c'est le moment où le médecin lui injecte les médicaments pour l'empêcher de mourir de son overdose et le remettre sur pied, qu'il y a cette chanson qui arrive dans notamment le film, qui est un film, The Wall, mais qui est, c'est censé être ce moment-là de l'histoire, et la voix de Roger Waters incarne ici les paroles du docteur. Avec cet effet qui monte là. Écoutez bien cette progression d'accord qui descend peu à peu. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Cette descente là. Et là, on change complètement d'ambiance pour arriver dans ce refrain. Qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là? Eh bien, on passe de la tonalité de si mineur, qui est assez sombre, en plus avec cette mélodie descendante à la basse, qui donne un côté très sombre, très pesant à la mélodie. Et d'un coup, on passe au relatif majeur de si mineur. Le relatif majeur, on en a déjà parlé, c'est quand on a deux gammes qui partagent toutes les mêmes notes, mais juste pas le même point de départ. Et le relatif majeur de si mineur, c'est ré majeur. Et on part sur l'accord de ré majeur. Puis l'accord de la majeur. Et on alterne entre ces deux accords en boucle. Puis, au lieu de revenir sur ce ré, cette fois-ci, on va descendre d'un ton, et on va sortir du coup de la tonalité de ré majeur pour aller dans la tonalité de do majeur. Et on revient sur la majeur. C'est ça qui va caractériser ce passage-là, c'est qu'on est sur une progression d'accords qui est très simple, et on va alterner entre la tonalité de ré majeur et de do majeur, en alternant toujours l'accord du premier degré et l'accord du cinquième degré. L'accord du premier degré étant le plus stable, l'accord du cinquième degré étant son opposé, le moins stable, celui qui a le plus envie de se résoudre. C'est comme ça qu'on arrive à faire alterner ces points de vue et donner cette dynamique à ce passage central. D'ailleurs, si vous écoutez bien, la première partie, c'est des instruments classiques du rock qu'on entend. On entend la guitare qui fait des petits effets, ce genre de choses-là. Globalement, on est sur une batterie, une guitare et une basse. C'est ce qui compose l'instrumentation des couplets de Comfortably Numb, quand c'est Roger Waters qui chante. Par contre, sur les refrains, on a une explosion orchestrale avec des violons qui vont jouer des arpèges descendants. La fa mi ré, la fa mi ré, la fa mi ré, la fa mi ré, la mi ré do, comme ça, dans l'aigu. Donc je vous invite à écouter, à prêter attention à ça, au fait que d'un coup on passe sur quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus lumineux en fait, puisqu'on passe de quelque chose de sombre, le mineur, à quelque chose de lumineux, le majeur, avec en plus cette orchestration qui arrive. Tous les éléments nous font passer dans le lumineux. Et pourquoi? Tout simplement parce que on passe de la perspective du docteur à la perspective de Pink, sur le refrain, c'est la voix beaucoup plus chantante, lyrique et lumineuse, légère de David Gilmour qui chante, et c'est lui qui ici interprète le rôle de Pink. Et je vous invite à écouter un peu plus en détail les paroles d'ailleurs. Il parle du fait que il ne ressent aucune douleur après avec tous les médicaments qu'il a pris dans le sang. Et là, on arrive sur le refrain. Do majeur. Ré majeur. La majeur. Do majeur. Et là, La majeur. Et on arrive sur un accord de Ré majeur et sur les accords du premier refrain. David Gilmour improvise le premier solo de Comfortably Numb, qui sert de pont pour retourner dans le deuxième couplet. Notez que le solo de David Gilmour comporte assez peu de notes et cherche surtout toucher à quelque chose de plus mélodique. Et là, on revient sur le premier couplet, dans le deuxième couplet. Sauf que cette fois-ci, on garde le motif en accord. Écoutez bien, depuis le début. On regarde ce motif d'accord qui descend des arpèges descendants, et cette fois-ci on va les jouer au synthétiseur en fond, ça donne avec un côté un peu proche d'un clavecin, de ces instruments d'Europe de l'Est où on frappe sur avec des marteaux sur les cordes. Écoutez bien. Ça donne un mouvement, ça augmente la tension. Et là, retour du refrain. Avec tous les effets d'écho, tous les effets habituels de la... On passe de quelque chose de sombre à quelque chose de lumineux. Ici, on voit que les Pink Floyd jouent beaucoup sur le contraste. L'effet de contraste est très très important dans Comfortably Numb. C'est ça qui lui donne vraiment toute sa force. C'est cette contraste entre les moments très très sombres et les moments très très lumineux qui montrent... à la fois l'extase du trip sous acide qu'est en train de vivre Pink, mais en même temps l'horreur de sa situation. Et qui est aussi une démonstration que il n'y a pas besoin de choses très très compliquées pour faire un grand morceau.
Et là, on revient sur les accords. On va revenir sur les accords du couplet pour pouvoir faire le dernier solo de Comfortably Numb qui conclut le morceau. Et avant de se plonger là-dedans et d'écouter la maîtrise de David Gilmour, j'aimerais parler pendant quelques instants d'un peu d'aspect technique de la guitare. En effet, ce solo est un solo de guitare et donc c'est intéressant de se plonger sur comment fonctionne l'instrument. David Gilmour ne se contente pas d'utiliser la guitare en clean, c'est-à-dire sans aucun effet, pour faire ses solos. Comme ça, avec ce genre de son-là. Le solo de Comfortably Numb. Quelque chose comme ça. Je le fais très très mal. Mais ne serait pas du tout passé si on n'avait pas des effets par-dessus. Et les effets qu'utilise David Gilmour, c'est un sujet qui est fortement sujet à débat. Mais globalement, il va aller chercher plutôt dans le claquant de la guitare, c'est-à-dire en ouvrant le ton de la guitare avec le micro chevalet pour les solos en général. Et par ailleurs, il va utiliser ce qu'on appelle une fuzz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fuzz? Et la fuzz qu'il utilise d'ailleurs, ça, c'est une fuzz assez particulière, c'est une Big Muff. Alors, qu'est-ce que c'est une fuzz? Une fuzz, c'est une pédale d'effet. Vous savez, les guitaristes ont beaucoup de pédales qu'ils branchent entre la guitare et l'ampli, et c'est ce qui va leur donner une couleur particulière. Et les pédales de David Gilmour, la pédale iconique de David Gilmour, c'est une fuzz qui s'appelle la Big Muff. Alors, comment ça fonctionne une fuzz? C'est très très simple. On va augmenter le son de l'instrument, on va amplifier l'onde transmise par l'électronique de l'instrument jusqu'à dépasser la saturation, et on coupe tout, ce qui va donner un côté très distordu où on perd un peu en nuances, dans les nuances de forte ou piano, mais par contre on va avoir un son très égal et surtout on va avoir une durée des notes qui est beaucoup plus importante. Ici, je vous ai mis un équivalent d'une fuzz et je vous laisse écouter la différence entre une note sans effet. Qui s'estompe assez rapidement. Et une note avec effet qui s'estompe beaucoup moins vite. Parce qu'elle a un sustain. Alors, c'est ça l'effet principal du sustain, c'est que ça va allonger la durée de la note. Et chez David Gilmour, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, ça crée une distorsion, c'est-à-dire que le son est un peu plus chaud. Et le solo de Comfortably Numb, le deuxième solo, celui qui a rendu Comfortably Numb célèbre, c'est un solo qui va majoritairement se jouer sur la gamme pentatonique mineure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gamme pentatonique mineure? C'est une gamme qui, au lieu de jouer les 7 notes de la gamme, que sont Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré, et ainsi de suite, va utiliser seulement une partie de ces notes, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire Si, Do dièse, non, Si, Ré, Mi, Fa, 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 La, Si, Si, Ré, Mi, Fa, La, Si. Et je vous laisse écouter ce que ça donne. Ça donne un côté un peu, et tout de suite vous sentez que c'est un peu plus rock, un peu plus blues. Eh bien, en se concentrant uniquement sur ça et sur une technique, la technique favorite de Gilmour, qu'on peut vraiment le dire, qui est le bend, c'est-à-dire le fait de prendre une corde et au lieu de la maintenir, de juste jouer la note au-dessus, comme ça, on va juste tirer la corde de la guitare vers le haut, ce qui donne cette espèce d'inflexion qui ressemble beaucoup à des voix. Un effet vachement
recherché par David Gilmour, et autour de cette gamme pentatonique mineure qui passe vraiment partout par-dessus la progression d'accords qu'on a. Eh bien, les notes de cette gamme pentatonique mineure vont prendre de plus en plus de couleurs, et en plus, cette progression d'accords qui descend avec la basse qui descend progressivement dans le grave, c'est vraiment quelque chose de très 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 classique quand on écoute des solos de rock. Et faites bien attention au fait que David Gilmour, c'est quelqu'un qui utilise des rythmes très simples, qui va pas chercher forcément la grande complexité, il se contente de la gamme pentatonique mineure et des bends, et c'est ce qui fait la grandeur de ce solo, ce n'est pas que le solo en lui-même, mais aussi tout ce qui l'entoure, tout l'environnement musical à ce moment-là. Alors, maintenant qu'on va l'écouter, prêtez attention à ça, et aussi au fait qu'on a une construction dramatique du solo qui est vraiment parfaitement maîtrisée. Dans le sens où on commence sur quelque chose d'assez simple, on développe un peu plus vers la complexité, le lyrisme, et à la fin on a vraiment une explosion, on va très loin dans l'aigu, où c'est très très intense. Prêtez attention à ça. Et là on anticipe le truc qui arrive, et le solo. Des plantes vraiment très très simples. Le but ici, c'est de construire progressivement le solo d'un point de vue musical, mais aussi d'un point de vue dramatique. Écoutez à quel point la Big Muff donne un côté très 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 chaud à la guitare de David Gilmour. Il l'a fait saturer, qui lui donne un côté vraiment très déchirant. Et enfin, vers l'aigu. On construit vraiment quelque chose de plus en plus dense, de plus riche, vers la fin et le climax du morceau. Et là, ligne très lyrique dans l'aigu. Et sur la fin du solo, on diminue progressivement avec un fade out, c'est-à-dire où le volume descend peu à peu, et le morceau est terminé. Et bien voilà, c'était tout sur Comfortably Numb. J'espère vous avoir donné quelques clés de compréhension sur ce morceau très simple au final, avec des éléments théoriques vraiment basiques, il n'y a pas de grand concept théorique derrière, juste la mélodie, l'utilisation intelligente de l'instrumentation, de l'harmonie, avec cette basse descendante qui donne un côté très grave et très sombre à la partie mineure, et ensuite le contraste avec la partie majeure dans le refrain qui est vraiment éclatant et qui semble très serein. Ces contrastes-là, le jeu sur ces contrastes, le jeu sur l'harmonie, même si elle est très simple, et le génie mélodique de David Gilmour, voilà tout ce qui fait Comfortably Numb cette dernière grande pépite de Pink Floyd avant la séparation du groupe en 1980. Je vous remercie de votre écoute, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse avec Comfortably Numb des Pink Floyd.